C'est un signe positif parce que c'est la première fois en fait qu'on a le régime syrien et l'opposition syrienne qui sont réunis et qui vont normalement continuer à débattre de la situation en Syrie à Genève à partir de vendredi.
Est-ce qu'ils peuvent effectivement trouver un terrain d'entente?
Effectivement, Walid Mouallem, le ministre des Affaires étrangères syrien, est parti dans une violente diatribe contre l'opposition syrienne, l'accusant de ne pas être représentatif, de se cacher dans des hôtels 5 étoiles à l'étranger alors que le peuple syrien s'est massacré. Il leur a dénié toute légitimité en leur disant que ce n'est pas à partir de l'étranger, mais à partir de la Syrie, en vivant au quotidien les privations du peuple syrien, qu'ils pouvaient être légitimes pour parler de la Syrie. Donc ça augure mal, je dirais, d'une discussion sérieuse entre les deux parties, parce que le régime syrien ne va pas vouloir discuter avec cette opposition, la coalition nationale syrienne, qu'ils savent de toute façon, sans aucun lien avec les rebelles sur le terrain, qui savent évidemment donc sans pouvoir. Si même un cessez-le-feu, un accord est conclu entre le régime et la coalition nationale syrienne, les rebelles de toute façon le rejetteront.
Et manifestement, il y a même aussi une partie de la population syrienne qui commence à se rallier finalement au régime parce qu'elle en a assez.
Bon, je suis allé en Syrie en octobre, je suis resté dans la zone gouvernementale à Damas et Latakia à Tartous. Ce qui m'est apparu que cela soit de la part de gens qui étaient proches du régime ou de gens qui étaient plutôt proches de l'opposition, c'était qu'ils voulaient revenir à une situation de paix, retrouver la sécurité, parce que cette guerre est sans fin. Et surtout, ils se rendent compte que la solution ne peut pas venir des rebelles qui sont trop divisés, dominés par l'islam radical. Et que si le régime syrien tombe, ça risque de compliquer encore plus le règlement de la crise et le retour à la sécurité. Ils sont donc prêts à abandonner en fait leurs revendications politiques. Le départ d'Assad pour eux, c'est secondaire. S'il s'en va, ils vont pas le regretter. Mais vu que Bachar el-Assad n'a pas l'intention de partir, eh bien ils feront avec. Ce qui les importe aujourd'hui, c'est de retrouver vraiment la sécurité.
Et les puissances occidentales aussi sont dans une situation un petit peu curieuse parce qu'elles aussi ont dû changer leur fusil d'épaule. Au départ, elles misaient sur un départ rapide de Bachar al-Assad. Là, c'est l'échec sur ce plan-là. Et elles se concentrent aussi sur les groupes djihadistes qui se sont mêlés aux rebelles syriens. Il y a eu du côté de l'ONU, ce cafouillage avec l'invitation ou la non-invitation de l'Iran à participer à la conférence, on a l'impression que les grandes puissances sont assez démunies face à ce conflit, toujours.
Du côté occidental, effectivement, on est démunis puisqu'on avait misé sur une chute rapide du régime, ensuite sur une chute militaire du régime en encourageant les rebelles, en armant les rebelles, en entraînant les rebelles, comme l'ont fait les États-Unis en Jordanie, par exemple. Et puis, malgré tout, le régime résiste toujours parce qu'il a le soutien de l'Iran, de la Russie, le Hezbollah est venu lui prêter main forte. Donc, numériquement, il a une armée solide à opposer aux rebelles, même s'ils sont extrêmement nombreux. Dans ces conditions-là, comment faire pression sur Assad? Extrêmement difficile. Il faut faire pression sur les parrains d'Assad, la Russie et l'Iran. Mais bon, voilà, l'Iran n'a pas été invité. Enfin, il était invité et ensuite on a repris l'invitation parce que sinon l'opposition syrienne menaçait de ne pas participer et l'Arabie saoudite aussi aurait refusé de participer. Donc on a préféré maintenir l'opposition syrienne à la conférence. Quant à la Russie, comment la faire bouger? Là aussi, on s'est efforcé de la faire bouger depuis le début de la crise, ça n'a pas marché.
Mais est-ce qu'il y a quand même une issue qui se profile? Parce qu'on a vu que cette stratégie de miser sur un régime fort, militarisé, ça a échoué dans d'autres pays. Je pense bien sûr à l'Égypte, à la Tunisie, qui ne vont pas très très bien aujourd'hui encore. Est-ce qu'il y a une solution réelle à moyen terme pour que au moins les combats cessent?
Alors, l'exemple de l'Égypte est intéressant, puisqu'effectivement, pendant des années, on a soutenu Moubarak, qui se disait le protecteur face à la montée de l'islamisme, face aux frères musulmans. Il a fini par tomber, et l'Occident a appuyé les frères musulmans. Alors, qu'est-ce qui s'est produit en août 2013? Coup d'État en Égypte, soutenu par l'Arabie saoudite, finalement accepté par l'Occident. Et le retour, finalement, du système Moubarak, c'est quand même un événement qui fait jurisprudence dans le cas syrien. Finalement, est-ce que les Occidentaux ne se rendent pas compte que ce type de régime empêche quand même l'islamisme de se développer? Parce que, il n'y a pas d'alternative démocratique satisfaisante, en tout cas, pour le remplacer. Depuis le début du conflit, les Occidentaux et les pays du Golfe ont mis sur pied le Conseil national syrien, qui ensuite est devenu la coalition nationale syrienne.
Qui est assez divisée aussi en
Qui est
interne.
extrêmement divisé, avec un spectre très large, qui va de vieux marxistes comme Michel Quilot et Georges Sabra, qui sont également chrétiens, jusqu'à des gens salafistes proches de l'Arabie Saoudite, incluant les frères musulmans, avec donc des clivages entre ces différentes personnes, des clivages également régionaux.
C'est difficile d'imaginer ce corps disparate prendre tout à coup le pouvoir et assumer une transition démocratique en Syrie.
C'est tout à fait impossible.
Alors quoi?
Ben justement, alors quoi? C'est ça la grande question. Finalement, il semble que les États-Unis et les Russes soient prêts à s'entendre sur le maintien en fait du régime syrien, s'il accepte d'évoluer, en tout cas pour les Américains, d'accepte d'évoluer, d'intégrer une partie de l'opposition, en tout cas. Mais les États-Unis restent opposés au maintien au pouvoir de Bachar el-Assad. Seulement, ils n'ont aucun moyen de l'empêcher de partir. Donc peut-être encore 6 mois, 1 an, avant qu'il se rende à la raison que Assad est indéboulonnable et qu'il va falloir continuer à vivre avec lui. Et par ailleurs, il faut se méfier du régime syrien qui a plus d'un tour dans son sac. Assad va mettre à profit, en fait, encore 1 an, 2 ans, pour pousser à l'extérieur du pays plusieurs millions de personnes. On a déjà 3 millions de Syriens qui sont réfugiés à l'étranger, 7 millions de déplacés intérieurs.
120 000
L'ONU,
morts, oui.
oui, 120-150 000 morts. L'ONU nous dit que fin 2014, il y aura sans doute 5-6 millions de Syriens à l'étranger. Et pour Assad, c'est un moyen de se débarrasser des opposants, c'est un moyen de se débarrasser des populations hostiles. Il mettra leurs biens sous séquestre, leurs terres, leurs maisons. Et il les distribuera à ses fidèles, qui seront d'autant plus fidèles qu'ils n'auront pas envie que les réfugiés reviennent. Et ainsi, il confortera son pouvoir encore pendant au moins une génération.